Vous écoutez On lit pour vous.
Ottawa défend sa position de partisan des énergies fossiles. Un texte d'Alexandre Shields, paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir. Le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, affirme que la croissance de la production et des exportations de pétrole et de gaz est une décision très responsable, et ce, même dans le contexte de l'aggravation de la crise climatique alimentée par notre dépendance à ces énergies. Au moment où l'Europe est frappée par une vague de chaleur meurtrière, un phénomène lié au réchauffement planétaire, le ministre Champagne s'est porté à la défense de la croissance du secteur des énergies fossiles au Canada. Comment peut-on justifier de nouveaux projets de pipeline et de mégaprojets de gaz naturel liquéfié et donc la croissance de l'industrie alors que nous devons rapidement réduire nos émissions de gaz à effet de serre, GES? On le fait de façon très responsable, a répondu le ministre lors d'un point de presse tenu en marge d'une conférence de l'Agence internationale de l'énergie, AIE, se tenant début juillet 2026 à Montréal. On veut augmenter notre production d'énergie, mais nous avons la responsabilité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, a-t-il ajouté. M. Champagne a cité en exemple le méga-projet pétrolier en milieu marin Baie du Nord, qui doit permettre d'exploiter du pétrole en eau très profonde au large de Terre-Neuve et Labrador. C'est un des projets qui, dans sa catégorie, va émettre le moins de CO2 au monde, a fait valoir le ministre. Le gouvernement libéral, qui a approuvé le projet en 2022, a accepté cette année de payer des redevances qui devraient être imposées aux promoteurs. Le montant de fonds publics utilisé pour cela pourrait atteindre 1 milliard de dollars. Le projet se situe dans une zone d'importance écologique et biologique de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique et s'étend dans des écosystèmes marins vulnérables. Des décennies de pétrole et de gaz. Selon François-Philippe Champagne, le Canada peut et doit jouer un rôle dans un monde complexe, frappé par différentes crises géopolitiques. Le monde a besoin d'énergie, de gaz et de pétrole, mais aussi d'accélérer l'électrification, a-t-il insisté. On peut produire du gaz de façon plus responsable et durable que la plupart des pays dans le monde. On sait que ça va durer encore quelques décennies. Le directeur général de l'AIE, Fatih Birol, a parlé de plusieurs décennies avant que l'ensemble de la planète arrive à un programme de décarbonation aussi ambitieux à l'ensemble de la planète que celui du Canada, a-t-il souligné. Environnement et changement climatique Canada a déjà calculé que l'utilisation du pétrole et du gaz exportés du Canada avait généré plus de 10 milliards de tonnes de GES entre 2012 et 2023. Pendant que le gouvernement Carney mise plus que jamais sur la croissance de l'industrie des énergies fossiles, le plus récent bilan national des émissions de gaz à effet de serre montre que le Canada accuse un sérieux retard dans ses engagements climatiques et que le secteur fossile augmente ses émissions. Avant de démissionner, l'ancien ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a critiqué sans détour l'abandon des progrès climatiques durement acquis au seul profit de l'industrie des énergies fossiles. Résultat, il sera, selon lui, impossible de respecter nos engagements en matière de lutte contre la crise du climat et l'objectif essentiel de la carboneutralité a tout simplement disparu. Trois jeunes citoyennes, appuyées par des groupes écologistes et l'Association canadienne des médecins pour l'environnement, viennent de lancer une action en justice contre le gouvernement fédéral de Mark Carney. Leur poursuite fait valoir que le plan climat du Canada est voué à l'échec, ce qui signifie qu'il viole la législation qui doit permettre au pays d'atteindre la carboneutralité. C'était Ottawa défend sa position de partisan des énergies fossiles, un texte d'Alexandre Shields paru le 29 juin 2026 dans Le Devoir.
Il y a 100 ans, l'incendie du château Frontenac, un texte de Catherine Gilles paru le 3 janvier 2026 dans BANQ. Le 14 janvier 1926, une aile complète du château Frontenac est détruite par un incendie. On craint alors le pire pour le luxueux hôtel de Québec qui jouit d'une réputation internationale. État des lieux. Vers 17h30, un incendie se déclare dans une chambre inoccupée de l'aile Riverview du château Frontenac. L'origine de l'incendie demeure encore aujourd'hui inconnue. Bien que le feu soit maîtrisé vers 23h, les pompiers luttent toute la nuit pour éteindre définitivement les flammes. Des renforts sont envoyés de Montréal et de Trois-Rivières, mais les pompiers, déjà sur place, suffisent finalement à mettre fin au sinistre. La partie la plus récente de l'hôtel, dont la tour centrale qui vient juste d'être érigée, est sauvée grâce aux cloisons coupe-feu. Cependant, l'aile Riverview est sévèrement endommagée. L'incendie, qui ne fait heureusement pas de victimes, cause des dégâts évalués à plus de 760 000 $. Le montant des pertes varie d'une source à l'autre. Le lendemain matin, l'édifice est recouvert d'énormes glaçons, résultat du contact de l'eau et de l'air froid. 127 jours de fermeture s'avèrent nécessaires pour reconstruire l'aile ravagée par les flammes à partir des plans originaux de Bruce Price. En plus de l'ajout de 2 étages, on procède à la construction de la salle Champlain, aussi nommée Riverside Lounge, appelée à devenir un haut lieu de la gastronomie. Les origines du château. À la fin du 19e siècle, la ville de Québec réclame la construction d'un hôtel de luxe d'une valeur d'au moins 150 000 $ en promettant une exemption de taxes d'une durée de 10 ans. Un trio d'hommes d'affaires avec à sa tête Williams Cornelius Van Horn, le président du chemin de fer Canadian Pacific, se réunit dans la capitale pour élaborer un projet en ce sens. Le site de l'ancien château Haldimand, construit au XVIIIe siècle et reconverti depuis en école normale, leur paraît l'endroit idéal pour mener à bien leur mission. Contrairement à la croyance populaire selon laquelle c'est la compagnie ferroviaire Canadian Pacific qui a lancé la construction de l'hôtel de luxe, le chantier est plutôt l'œuvre d'hommes d'affaires de la compagnie du château Frontenac, entreprise qu'ils ont fondée au cours du processus. Le Canadian Pacific se portera acquéreur de l'hôtel en 1894, soit un an après l'ouverture. Bruce Price, l'architecte américain à qui l'on doit la gare Windsor et la gare Vigée à Montréal, est choisi pour dessiner les plans de l'hôtel. Il s'inspire des anciens châteaux français de la Renaissance. Le château de Jaligny, dans la vallée de la Loire, lui sert de modèle. L'hôtel est construit par Félix Labelle, un ancien tailleur de pierre de Sainte-Rose, devenu maçon et constructeur de maisons. Le nouvel édifice est éclairé à l'électricité, possède une salle à dîner pouvant accueillir 300 convives et compte 170 chambres. Porté par un succès retentissant, le château Frontenac fera l'objet de plusieurs agrandissements au fil des ans, dont l'aile de la Citadelle en 1899, l'aile Mont-Carmel en 1908, la tour centrale en 1926 et l'aile Claude Prat en 1993. Notoriété universelle. Au cours du XXe siècle, plusieurs événements se déroulent entre les murs du château Frontenac et contribuent à sa renommée internationale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les pays alliés s'y donnent rendez-vous pour la tenue des conférences de Québec en 1943 et 1944. Winston Churchill, premier ministre du Royaume-Uni, Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis et William Lyon Mackenzie King, premier ministre du Canada, s'y retrouvent alors pour décider des prochaines manœuvres militaires dans une guerre qui s'éternise. Une deuxième rencontre réunissant les 3 mêmes chefs d'État s'y déroulera également un an plus tard. Une fois la guerre terminée, l'hôtel de luxe est de nouveau requis, cette fois pour accueillir les représentants des pays membres des Nations Unies. Dans le domaine culturel, le château Frontenac laisse également ses marques. En 1952, le réalisateur Alfred Hitchcock choisit d'y tourner son film « I Confess » où Montgomery Clift tient le rôle principal. En 1969, l'hôtel sert de décor au film « Don't Drink the Water » de Woody Allen. L'écrivain français Frédéric Darce, en Antonio, trouve dans ces lieux l'inspiration nécessaire pour ficeler l'intrigue de son roman « Ma cavale au Canada » publié en 1989. Enfin, en 1981, l'importance historique du château Frontenac est reconnue. L'hôtel est désigné « lieu historique du Canada ». C'était, il y a 100 ans, l'incendie du château Frontenac, un texte de Catherine Gilles paru le 3 janvier 2026 dans BANQ.
Mon conjoint n'attend pas l'appel du muezzin pour faire sa prière. Un témoignage d'Hélène Martel paru le 6 juillet 2026 dans la presse. Avant de risquer l'aventure d'un commentaire, je tiens à préciser ma situation pour éviter d'être enfermé dans une petite case identitaire ou autre. Je suis de tradition chrétienne et marié avec un musulman depuis plus de 40 ans. Il va de soi que cette mixité culturelle et religieuse exige des compromis difficiles des deux côtés. Mon conjoint est pratiquant. 5 fois par jour, quand il le peut, il se retire dans une pièce de la maison pour faire sa prière en toute discrétion. Il lui serait malvenu de dérouler son tapis de prière dans le salon alors que je vaque à mes occupations domestiques. Ce serait pour moi l'envahissement de mon espace. Le vendredi, quand cela lui est aussi possible, il va prier dans un centre communautaire ou une mosquée. Il y en a à peu près partout au Québec et au Canada. Cependant, mon conjoint n'attend pas l'appel d'un muezzin pour lui rappeler l'heure de la prière. Elle peut changer selon la saison ou la région, mais se déroule normalement entre 12h45 et 13h. Un musulman attentif et pratiquant saura exactement où et quand se rendre à la mosquée. Cela m'amène à l'actualité récente portant sur la délivrance d'un permis à la communauté musulmane pour diffuser l'appel à la prière, Adhan, au centre-ville de Regina, en Saskatchewan. Dans un pays qui s'est progressivement laïcisé, il fallait s'attendre à des réactions légitimes, comme ce fut le cas à Montréal avec les prières de rue et comme, je l'ai dit plus haut, ce serait mon cas si la prière de mon conjoint faisait écho dans toute la maison. Ceux qui ont une relation plus intime ou personnelle avec l'islam savent que la prière est au cœur de cette religion. Ce que nous savons moins cependant, c'est que le fidèle peut ramasser ses 5 prières et les faire à la maison quand il n'est pas dans un contexte lui permettant de respecter les exigences de sa foi. À cet égard, l'esprit du Coran semble moins étroit que celui des plus rigoristes qui appliquent à la lettre le texte sacré. C'est comme si le prophète, dans sa sagesse, avait prévu que le fidèle serait sans cesse confronté à des situations changeantes qui exigeraient de sa part qu'il s'adapte. Imaginez un musulman dans le désert. Il fait ses ablutions avec le sable, puisqu'il n'y a pas d'eau à sa portée. Une religion ostentatoire. Il est vrai que dans les pays à tradition catholique, l'Angélus sonne toujours dans certaines paroisses, mais c'est une pratique de moins en moins courante. Beaucoup ont cessé de faire sonner la cloche parce que nos sociétés se sont sécularisées et l'institution s'est adaptée. Partout au Canada, des mosquées ou des lieux de prière existent pour les musulmans, et je m'en réjouis parce qu'ils témoignent de notre esprit d'ouverture. En contrepartie, on doit se demander pourquoi certaines communautés, ou ceux qui les représentent, tiennent à reproduire intégralement les mêmes pratiques religieuses que celles du pays d'origine. Pourquoi demander au pays d'accueil de s'accommoder aux exigences de l'islam alors que cette religion peut être très accommodante pour le musulman vivant à l'étranger? Je suis allé plus de 40 fois dans le pays de mon conjoint et j'ai vite compris que l'islam est une religion ostentatoire. Vous rencontrerez dans la rue, dans un centre commercial, sur la plage, dans les milieux de travail, un homme ou une femme tourné vers la Mecque qui répond à l'appel du muezzin. Vous entendrez également cet appel à la prière du petit matin jusqu'au soir. Même si à Regina cet appel se faisait le vendredi et ne durait que quelques minutes, quand sera-t-il demain ou après-demain? C'est exactement ce que craignent les citoyens qui ont grandi dans une société qui sépare la religion de l'État pour des raisons que l'histoire nous enseigne. La laïcité est plus qu'un concept. C'est un cadre qui permet à tous et toutes d'évoluer dans un milieu où chacun se sent respecté dans ses croyances. Et comme dans un couple mixte, cet équilibre est fragile. À mon humble avis, les musulmans les plus modérés ne s'encombrent pas des dogmes et beaucoup sont capables de compromis. Si un musulman peut ramasser ses 5 prières de la journée et les réciter le soir à la maison, s'il doit se laver avec du sable avant de rendre grâce à Dieu parce qu'il lui est impossible de faire autrement, il n'a pas besoin d'entendre le chant d'un muezzin pour lui rappeler la prière du vendredi. Les élus devront faire cette réflexion afin de ne pas atteindre le point de bascule qui pourrait rompre ce fragile équilibre tant recherché pour mieux vivre ensemble. L'expression de la foi n'a pas besoin de faire de bruit. Elle est un appel du cœur qui invite discrètement le croyant à faire la prière. C'était « Mon conjoint n'attend pas l'appel du muezzin pour faire sa prière », un témoignage d'Hélène Martel paru le 6 juillet 2026 dans la presse.
Face à la montée de l'autoritarisme et de l'extrême droite, les droits humains entre nos mains. Un texte de Laurence Guénette, paru le 13 mai 2026 dans Droits et Libertés. Ces dernières années, nous assistons à une augmentation de l'intolérance, de la haine, de l'autoritarisme et de la violence à travers le monde, alimentée par la montée en puissance des mouvements d'extrême droite, tant au sein des gouvernements qu'en dehors. Cela se constate des États-Unis jusqu'au Royaume-Uni, où la répression des mouvements sociaux et la violence envers les migrants et migrantes atteignent des sommets inouïs, en passant par les soulèvements populaires fortement matés par les autorités à Madagascar, au Pérou, au Kenya, au Maroc, en Turquie, au Népal et ailleurs. Au cœur de cette époque sombre, le génocide du peuple palestinien commis par Israël au vu et su de toutes et tous peine à être reconnu tant la faillite du droit international semble totale, tout comme le mépris envers lui. Au moment de déterminer le thème de ce dossier, les attaques illégales des États-Unis et d'Israël sur l'Iran et le Liban n'étaient même pas encore commencées. Le néolibéralisme a malheureusement produit les conséquences que ses opposants et opposantes ont prédites et combattues, notamment la croissance des inégalités, qui nourrit le terreau dont profitent la droite radicale et l'extrême droite. Plusieurs des avancées progressistes, écologistes, féministes, pour la diversité de genre, antiracistes, etc., obtenues malgré tout ces dernières années, provoquent une réaction de leur part d'une ampleur que peu avaient imaginée, cela dans un monde où la polycrise est installée. Les personnes les plus vulnérables ou marginalisées sont les premières à en subir les conséquences. Affronter le vent de face. Comment donc défendre les droits humains quand tout semble s'effondrer? Cette grande question, qui nous occupait au moment de choisir le thème de ce dossier pour le numéro printemps-été 2026 des droits et libertés, n'a fait que gagner en pertinence depuis. Dans le contexte des turbulences idéologiques et politiques actuelles, de nombreux citoyens et nombreuses citoyennes et groupes sociaux sont indignés, déstabilisés et souvent découragés. Réfléchir ensemble est une exigence de lucidité dont on ne peut faire l'économie en ce moment. Ce dossier, nous l'espérons, alimentera les réflexions qui s'imposent en cette période si particulière. Les textes réunis ici parlent du passé, du présent et de l'avenir, du local et de l'international, du droit, du politique et de l'instrumentalisation des droits, des défis auxquels nous sommes confrontés, des pistes de solutions et des espoirs qui nous motivent à affronter malgré tout ce vent de face chaque jour. Commençant par des regards croisés sur la conjoncture ici, chez nous, un texte de Jean-Pierre Couture rappelle certaines racines historiques du nationalisme identitaire observable actuellement au Québec, où d'importants acquis sont remis en question au nom de la nation. Puis, la plume de Louis-Philippe Lampron nous permet d'explorer les failles constitutionnelles et légales utilisée par le gouvernement du Québec pour porter atteinte aux droits et les pistes dont doit tenir compte la société civile pour y résister et renforcer nos digues collectives. L'article que je propose s'intéresse pour sa part à l'instrumentalisation et à la disqualification des droits et libertés dans certains discours contemporains. Revenons sur la décision historique rendue par la Cour suprême du Canada concernant l'accès des familles demandeuses d'asile aux garderies subventionnées. Maryse Poisson et Louis-Philippe Janard montrent que la voie judiciaire peut mener à de belles victoires. La juriste Karine Miller met aussi en lumière un levier puissant, le recours à des rapporteurs spéciaux ou des rapporteuses spéciales des Nations Unies dans la défense des droits, comme l'illustre la lutte contre le projet de loi 1 sur une constitution québécoise. Si le système du droit international offre des recours, parmi d'autres outils importants, il présente aussi des lacunes fondamentales dont profitent encore aujourd'hui les grandes puissances l'ayant forgé, le génocide à Gaza en étant une des plus tragiques conséquences. La juriste de renom Monique Chemillier-Gendron nous en parle dans une entrevue réalisée par Mouloud Idir. Au sujet du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien, devenu l'un des mouvements sociaux les plus ciblés par l'appareil répressif de l'État canadien et d'autres États ces dernières années, Safa Chebbi revient sur un rapport d'une importance majeure rendu public par Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient. Les constats qu'on y trouve font écho à la surveillance et à la militarisation croissante au Canada et à leurs graves conséquences sur les droits et libertés. Tim McSorley aborde ce sujet en proposant quelques priorités d'action pour contrer ces dérives. Chez nos voisins états-uniens, le mot « dérive » semble faible pour décrire le basculement autoritaire accéléré dont témoigne Vince Warren, directeur du Center for Constitutional Rights, dans un texte où il traite aussi du pouvoir du peuple et des leviers incontournables que sont les mouvements sociaux et les organismes de défense des droits dans la résistance. Solidarité et inspiration. L'impérialisme américain ne semblant plus avoir de limites, Amélie Nguyen, dans son article, réfléchit à notre interdépendance et à la façon dont la solidarité internationale nous aide à comprendre les fondements oppressifs sur lesquels repose l'extrême droite. Lorsque les États faillissent à leurs obligations, des citoyens et citoyennes s'en chargent. Diane Lamoureux met en lumière des initiatives de résistance concrètes portées par la société civile pour protéger les réfugiés en Méditerranée. Louis-Philippe Janard présente une entrevue avec Wendy Ayotte du groupe Créons des Ponts, Bridges Not Borders, qui agit depuis la base en solidarité avec les demandeurs et demandeuses d'asile, tentant de franchir les nombreuses frontières terrestres et légales, séparant les États-Unis du Canada, au chemin Roxham notamment. Comme d'autres, ce groupe est confronté à la désinformation omniprésente. Afin d'aider organismes et militantes à mieux la contrer, Sarah Dubuc, Élodie Fournier et Christiane Forget, consciente que la mobilisation solidaire doit être renforcée plus que jamais, propose quelques bonnes pratiques. Pour clore le dossier, un article hommage à l'inoubliable Céline Bello, rédigé par Hyacinthe Poisson, permet de comprendre l'expérience de l'Observatoire des profilages et la portée de son approche multidisciplinaire. Les perspectives intersectionnelles, l'enjeu de l'interdépendance des droits et la nécessaire convergence des luttes, sont aussi au cœur de la conversation qu'ont eue pour nous Véronique Laflamme du Frappru, Bertrand Guibord du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN et Jess Legault de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. Stéphanie Meyer nous en restitue non seulement les constats éclairants, mais aussi l'énergie contagieuse invitant à se dépasser. En plus du dossier, nous vous invitons à lire dans le numéro printemps-été 2026 des droits et libertés, l'éditorial et nos chroniques qui traitent de la normalisation de l'exclusion scolaire au Québec, du mouvement d'opposition au projet minier La Loutre, de la guerre au Soudan et du livre « Le fascisme tranquille » de Jonathan Durand-Folco. Chers lecteurs, chères lectrices, vous ne trouverez personne dans ces articles qui baisse les bras ou jette l'éponge face aux offensives antidémocratiques en cours. Même si tout est bouleversé, les droits et libertés demeurent d'actualité pour cheminer vers la solidarité entre les communautés et la dignité pour toutes et tous. C'était Face à la montée de l'autoritarisme et de l'extrême droite, les droits humains entre nos mains. Un texte de Laurence Guénette, paru le 13 mai 2026 dans Droits et libertés.
Les Américains davantage préoccupés par l'inflation que par les attaques contre les droits trans. Un texte de Étienne Leduc, paru le 2 juin 2026 dans Fugue. Alors que plusieurs élus républicains tentent de faire des droits des personnes transgenres un enjeu central en vue des élections de mi-mandat de 2026, Un nouveau sondage publié le 1er juin par l'organisme GLAAD révèle que les préoccupations des électeurs américains se situent ailleurs. Selon cette enquête menée auprès de plus de 5000 adultes aux États-Unis, seulement 8% des répondants considèrent les questions liées aux personnes transgenres comme une priorité politique majeure. À l'inverse, 44% des électeurs affirment que l'inflation et la hausse du coût de la vie constituent leurs principales préoccupations. Les résultats indiquent également que 7 électeurs sur 10 préfèrent appuyer des candidats qui s'engagent à réduire les dépenses quotidiennes des ménages plutôt que ceux qui concentrent leurs efforts sur la restriction des droits des personnes trans. Le sondage met aussi en lumière un appui marqué aux valeurs d'inclusion. Près des 3/4 des répondants ont affirmé qu'ils soutiendraient un candidat qui estime que chacun mérite de vivre à l'abri de la peur et de la discrimination. Par ailleurs, 65% des personnes interrogées croient que les politiciens utilisent souvent les personnes transgenres comme bouc émissaire afin de détourner l'attention d'autres enjeux urgents auxquels le pays est confronté. Un appui persistant aux initiatives LGBTQ+. L'étude s'est également penchée sur les perceptions du soutien des entreprises aux communautés LGBTQ+. Une majorité de 68% des répondants estiment que les entreprises devraient être libres d'appuyer les personnes LGBTQ+ si elles le souhaitent. De plus, 62% se disent à l'aise de voir des marques participer aux célébrations de la fierté. Malgré les controverses et les campagnes de boycottage qui ont visé certaines entreprises au cours des dernières années, plus des 3/4 des répondants affirment faire davantage confiance aux organisations qui demeurent fidèles à leurs valeurs, même lorsque celles-ci suscitent des réactions négatives. Pour Sarah-Kate Hillis, présidente directrice générale de GLAAD, les résultats du sondage envoient un message clair aux responsables politiques. Ces résultats confirment ce que la plupart des Américains croient déjà. Nous sommes à notre meilleur lorsque nous traitons nos amis, nos proches et nos voisins avec dignité et respect, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Elle ajoute que les électeurs se montrent de plus en plus lassés des guerres culturelles qui dominent le débat public. Les citoyens en ont assez des divisions qui détournent l'attention des véritables enjeux qui préoccupent les familles au quotidien, comme l'explosion des coûts du logement, du carburant, des soins de santé et de l'épicerie, a-t-elle souligné. Les résultats de cette enquête suggèrent ainsi que, malgré la place accordée aux questions transgenres dans certains discours politiques, les préoccupations économiques demeurent de loin la priorité des électeurs américains. C'était « Les Américains davantage préoccupés par l'inflation que par les attaques contre les droits trans », un texte de Étienne Leduc, paru le 2 juin 2026 dans Fugue.